L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires ». Podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques, français ou internationaux. L'Institut Montparnasse a entamé depuis quelques mois une réflexion sur la démocratie renouvelée dans les organisations de l'économie sociale et solidaire. Dans ce 16e épisode, l'Institut Montparnasse a souhaité donner la parole à Flora Bernard, philosophe en entreprise et cofondatrice de l'agence TAE, convaincue que la philosophie pratique peut aider l'entreprise à redonner du sens à l'action. Et à Dominique Mahé, président de la MAI. Merci Dominique Mahé de nous recevoir dans vos locaux. Ma première question est tournée bien sûr vers vous. Pouvez-vous nous rappeler quel est le fonctionnement démocratique de la MAIF ? Première question.
Alors le fonctionnement démocratique de la MAIF, je dirais d'abord que c'est une longue histoire, commencée en 1934 précisément. D'abord dans un format de démocratie directe, et puis il y a 20 ans, un petit peu plus précisément en 2001, nous avons adopté un fonctionnement de démocratie représentative, je dirais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sollicitons tous les 3 ans nos sociétaires pour qu'ils désignent leurs représentants, leurs élus à l'Assemblée Générale. Et aujourd'hui, cette Assemblée Générale, elle est constituée de 700, à peu près, 700 élus, qui sont donc l'émanation du suffrage de nos sociétaires. Alors, je ne vais pas entrer dans les modalités plus précises, mais disons que nous avons un fonctionnement par zone du territoire et au sein de ces zones, des groupements où les sociétaires désignent, selon le nombre de sociétaires dans la région, plus ou moins d'élus. Donc au total, plus de 700 élus, une assemblée générale par conséquent représentative des sociétaires qui par le vote expriment quelque part un point de vue.
Alors vous nous avez dit qu'il y avait une évolution donc il y a 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez changé de façon de faire ?
Alors, il y a 20 ans, nous avons changé de façon de faire, liée notamment à la possibilité ou l'impossibilité à l'époque de réunir une assemblée générale extraordinaire, puisqu'une assemblée générale extraordinaire, dans la réglementation qui n'a pas changé depuis, nous devons réunir 2/3 des sociétaires présents ou représentés. Ça veut dire que sur quelques millions de sociétaires, il y a 20 ans, c'était à peu près plus de 2 millions. Aujourd'hui, c'est plus de 3 millions de sociétaires, l'impossibilité que nous avions de réunir une assemblée générale extraordinaire. Il est évident que par la démocratie représentative, cet obstacle-là tombe. Et donc, nous avons pu fonctionner, notamment dans une période, si je remonte ces 20 années, où les réformes, les évolutions, notamment de gouvernance, ont été nombreuses et importantes.
Si on reprend l'histoire de la démocratie depuis la création de la MAIF, qui remonte à
1934,
donc bien au-delà des 20 ans dont on vient de parler, que dire de ce modèle de fonctionnement ? Qu'en pense-t-on aujourd'hui ?
Alors, moi, je crois que c'est très important dans le monde de la mutualité d'une façon générale, que ce soit la mutualité santé ou la mutualité d'assurance, la MAIF fait partie de la mutualité d'assurance, qu'on est bien sociétaire. Ça veut dire que librement, on a décidé d'adhérer à une mutuelle, qu'on y reste en règle très générale fidèle, mais aussi qu'être sociétaire, c'est quelque part acter d'un engagement. Un engagement plus ou moins vif, plus ou moins fort, plus ou moins proche aussi de la gouvernance de la mutuelle. Et le premier acte de l'engagement, au-delà de la fidélité d'assurer et de la satisfaction que l'on peut retirer de sa mutuelle d'assurance, le premier acte d'engagement, finalement, c'est de s'exprimer par le vote. Ou d'être soi-même candidat à l'élection pour représenter la collectivité des sociétaires. Donc voilà, ça marche bien. Ceci étant, aujourd'hui, je vais être très transparent, il faut aussi regarder très objectivement si, dans le contexte plus général de la vision que le citoyen peut avoir de la démocratie, particulièrement dans le monde politique, si aujourd'hui on n'a pas atteint un seuil, particulièrement de participation.
Ce qui veut dire que même dans une communauté qui est celle des adhérents de la MAIF, on a besoin aujourd'hui peut-être de réexpliquer les choses. Comment vous communiquez justement sur ces éléments démocratiques auprès de vos adhérents ?
Alors, sur la communication, je vais y venir. Je pense que c'est important au stade où est notre échange de donner un chiffre ou plutôt un pourcentage. Aujourd'hui, et depuis 2 ou 3 ans, nous sommes à un taux de participation des sociétaires d'un peu plus de 20%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un sociétaire sur 5 sollicité pour s'exprimer par le vote, effectivement, vote, s'exprime par le vote. Selon le principe, quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console, c'est plutôt, dans le monde de la mutualité, un bon score. Grosso modo, ça se situe autour plutôt de 15%. Faut-il se satisfaire de 20% ou un peu plus de 20%? Clairement, non. Hein, clairement, non. Et particulièrement, je le dirais, au sein de notre collectivité, de notre communauté Maïf. Alors, comment nous sollicitons les sociétaires? Évidemment, en les informant que, selon ce rythme de 3 ans, hein, ils seront appelés à s'exprimer par le vote. Selon des médias, aujourd'hui, clairement, plutôt digitaux que papier, si j'ose dire. Hein. Je crois que l'intérêt aussi de ce moment de l'élection à la Maïf, c'est de mobiliser le corps social. Ça veut dire que lorsque des sociétaires sollicitent la Maïf pour la gestion d'un sinistre, pour une déclaration quelconque, pour acter d'un contrat nouveau, lorsque ce sociétaire est sollicité par le vote, systématiquement, la personne avec qui il est en contact le sollicitera pour lui rappeler que, effectivement, s'il le souhaite, il peut s'exprimer et désigner ses représentants. Donc il y a toute une communication, et je vais même dire plus une mobilisation de l'entreprise sur ce moment que constituent les élections et qui se situe en termes de temporalité sur les mois de janvier-février, sur en gros 3 ou 4 semaines.
Alors, on parle beaucoup d'économie sociale et solidaire. Moi, j'ai le sentiment, mais peut-être que ce n'est qu'une perception tout à fait personnelle, que les jeunes sont plutôt pas mal mobilisés autour de ces questions d'économie sociale et solidaire. Est-ce que justement, ce n'est pas une période auprès d'une certaine population qui est propice pour reformuler ces valeurs, pour les vivifier d'une certaine façon, et peut-être les rendre plus visibles auprès des jeunes ?
Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que les temps que nous vivons sont effectivement des temps qui contribuent, me semble-t-il, à faire en sorte que les valeurs, oui, mais surtout la façon d'agir des entreprises de l'économie sociale sont des valeurs et des actions porteuses aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est particulièrement vrai dans les jeunes générations, mais c'est finalement transgénérationnel. Il y a ce besoin, il y a cette recherche de sens, hein, dans ces actes d'achat, mais aussi dans son activité professionnelle. Il y a des enquêtes qui ont été assez nombreuses, qui ont été réalisées sur les motivations qui poussent particulièrement les jeunes à s'engager dans telle ou telle entreprise. Et il y a des exigences qui ne sont pas seulement des exigences d'exercer un métier et d'en recevoir forcément la rétribution, mais véritablement de bosser dans des entreprises où le sens de l'intérêt général, le sens du bien commun est développé. Et je crois que c'est un mouvement extrêmement porteur, exigeant pour l'avenir, mais finalement, où ce que porte l'économie sociale depuis longtemps, que ce soit les mutuelles, les coopératives, évidemment le monde associatif ou les fondations, sont particulièrement à même de s'inscrire, voire de donner l'exemple dans ce mouvement.
Est-ce qu'il y a un enjeu, vous parliez tout à l'heure, d'une répartition de la population, enfin des adhérents sur le sol français? Est-ce qu'il y a il pourrait y avoir des effets de levier de ce côté-là? Vous pouvez nous parler un petit peu de l'organisation?
Alors, à la Maïf, et je vais me limiter à l'exemple de la Maïf, hein, nous sommes une entreprise domestique. Ça veut dire que L'ensemble de nos plus de 8000 salariés aujourd'hui exercent sur le territoire national, que ce soit la métropole ou les départements que l'on n'appelle plus d'outre-mer. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire une présence de la MAIF dans l'ensemble des territoires. Nous avons dans chaque département, je vais raisonner découpage administratif, des agences, des délégations départementales, des centres de gestion sinistre, des centres de relations téléphoniques. Par conséquent, par cette présence d'entités MAIF, par cette présence de sociétaires engagés dans les territoires, on les appelle tout bêtement nous des militants. Militants MAIFs, moi c'est ce que j'ai été depuis 1986, par le hasard. Voilà, un jour on vous sollicite et on vous dit « Tiens, ça t'intéresserait pas de militer à la MAIF ?»« Ah ben si, pourquoi pas, etc. » On ne mesure pas forcément ce que sera cet engagement. A fortiori, on ne mesure pas la suite de l'histoire, ça c'est clair. Mais il y a cette volonté, non seulement d'être servi par sa mutuelle, mais de servir la mutuelle. Et servir la mutuelle, c'est aussi servir les autres. Et ça, cet ancrage territorial, cette proximité que l'on veut développer avec nos sociétaires, c'est incontestablement un atout de, premièrement, de fidélité, deuxièmement, de développement de sentiment d'appartenance, et troisièmement, d'engagement des sociétaires, pourquoi pas par le vote, voire pour être élus eux-mêmes.
Très bien, merci beaucoup Dominique Mahé. Je me tourne donc vers Flora Bernard. Vous rencontrez et conseillez de nombreuses entreprises. Alors, votre point de vue sur ce qui vient d'être dit ?
Je pense que tout ce qu'on vient de se dire, au fond, vient questionner le rôle politique de l'entreprise. Quand je dis politique, je l'entends au sens de polis, P-O-L-I-S, en grec, qui veut dire cité. Le rôle politique de l'entreprise, c'est quel rôle est-ce que l'entreprise joue dans la société ? Et ça, je pense que c'est vraiment un sujet d'actualité. Ça fait pas, c'est pas récent qu'on s'interroge sur le sujet, mais ce qui est récent, c'est qu'il y a un intérêt majeur pour le sujet. On le voit d'ailleurs avec la loi Pacte, qui demande donc aux entreprises de prendre en compte davantage leur rôle social, sociétal et environnemental. Avant d'être philosophe en entreprise, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le domaine du développement durable et de la responsabilité sociale des entreprises. C'est vrai qu'en 1997, quand j'ai commencé à travailler, c'était les entreprises qui s'y intéressaient surtout pour des questions de gestion de risque. Elles ne se questionnaient pas vraiment sur leur rôle social. Donc je trouve que c'est intéressant que des entreprises comme les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui ont été fondées sur l'idée, sur un projet social, sur l'idée qu'elles ont un rôle à jouer dans la société, c'est ça qui prime, on va dire, sur le fait de réaliser des profits. Et je trouve que c'est intéressant qu'aujourd'hui, la loi Pacte et le mouvement de la responsabilité sociale des entreprises demandent aux entreprises de prendre aussi cette responsabilité. Et donc la question que je trouve intéressante et qu'on peut se poser, c'est au fond qu'une démarche de responsabilité sociale soit sincère ou opportuniste, comme on pourrait le constater chez certaines entreprises, est-ce que ça change quelque chose en fait ? Et je trouve qu'il y a des questions intéressantes à se poser pour les entreprises, notamment dans le secteur de la mutualité, qui est quelle différence est-ce qu'elles apportent dans la société ? Alors, Monsieur Mahé a mentionné la démocratie, on pourra en reparler, notamment la gouvernance. Comment on prend nos décisions ? Comment est-ce qu'on fait pour faire participer les sociétaires ? Donc ça, je trouve que c'est un pan intéressant. Et puis, il y en a d'autres qu'on pourra aborder tout à l'heure sur la notion de travail.
Très bien, merci. On va y revenir. Dominique Mahé, vous voulez réagir sur cette question, effectivement, de la sincérité ou non de la mission sociale, on va dire, ou politique des entreprises qui est indiquée par la loi Pacte ?
Moi, je souscris tout à fait aux propos de Flora. Pourquoi ? Parce que, et la MAIF est bien placée pour l'exprimer, nous sommes depuis 2020, nous en avons pris la décision en Assemblée Générale, nous sommes entreprise à mission. Ça veut dire qu'on a suivi à la lettre cette loi Pacte que vous évoquez, Flora. Pourquoi on en a décidé ? Tout simplement parce que nous considérons qu'effectivement, demain, aujourd'hui et encore plus demain, le rôle des entreprises ne doit pas se limiter à l'objet social classique, hein, codifié, même si ce code a évolué. Ça veut dire quoi ? Une entreprise aujourd'hui et demain ne doit plus se contenter de produire des biens et des services n'importe comment et à n'importe quel prix. Ce n'est plus possible. Hein. Et on a la conviction à la Maïf que finalement, pour les entreprises, il y aura une révolution importante, conséquente, impactante, exigeante, c'est la révolution de l'impact. Dit autrement, demain, une entreprise ne pourra plus agir sur son activité, sur le cœur de son activité, sans être attentive et active sur la préservation du bien commun, que ce soit au plan environnemental, sociétal, les conditions sociales aussi d'exercice de l'activité seront effectivement déterminantes. Déterminantes aussi parce que on a également la conviction à la Maïf que les consommateurs, les clients, les sociétaires pour les mutuelles d'assurance seront extrêmement attentifs sur la façon de faire de l'entreprise auquel ils vont se référer. Et ça, c'est vraiment déterminant pour l'avenir. Et ma deuxième conviction, c'est de se dire que ce mouvement-là, incontestablement, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, les mutuelles ou les coopératives particulièrement, ont des atouts conséquents pour faire en sorte d'être à ces rendez-vous.
Alors, qu'en pensez-vous, Flora Bernard, vous qui travaillez avec, j'imagine, différentes formes d'entreprises? Qu'est-ce que vous inspire ces propos de Dominique Mahé?
En fait, je me demande si le fait d'être devenue entreprise à mission, ça a vraiment changé quelque chose pour vous, parce que comme c'était déjà dans votre ADN, je ne sais pas si ça a changé beaucoup de choses en réalité. C'est peut-être une manière de l'annoncer plus globalement, mais j'avais l'impression que dans ces entreprises, il y a déjà quelque chose de l'ordre d'une mission sociale et sociétale qui est au fondement même de la création d'entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, la mutualité pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire se sont positionnées sur le projet social, c'est-à-dire l'impact de l'entreprise dans la société, sur la gouvernance, comme Dominique vient de l'exprimer. Et je pense qu'il y a un troisième sujet que vous avez un petit peu évoqué tout à l'heure sur la question du sens au travail. Le troisième sujet, c'est l'organisation du travail. Je trouve qu'il y a un sujet à explorer là-dedans. Parce que je n'ai pas vraiment l'impression que la démocratie soit vraiment rentrée dans l'entreprise. Enfin, quand je dis dans l'entreprise, je veux dire dans la manière de travailler, dans le management, vous voyez ? Et je pense qu'il y a un vrai rôle à jouer pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire pour refonder le travail. On en a vraiment besoin. Il y a une énorme crise de sens. On l'a évoqué tout à l'heure avec les jeunes, mais je ne pense pas que ce soit un phénomène générationnel. On a tous envie, on y passe tellement de temps au travail, on a tous envie que ce temps-là soit du temps qui contribue à une mission utile et à contribuer à faire quelque chose qui nous dépasse un petit peu.
Alors, est-ce que c'est un point de progression pour la Maïf, ce qui vient d'être évoqué par Flora Bernard, par exemple? Est-ce que ça fait partie, peut-être, je dirais, des domaines dans lesquels il y a encore à explorer et à progresser?
Alors, il y a forcément toujours, hein, dans toutes les entreprises et à la Maïf également, des voies de progrès, hein, c'est évident. Si je rebondis sur les propos de Flora concernant le management, finalement, hein, et sans prétention d'exemplarité, dire quand même que à la Maïf, depuis une petite dizaine d'années, nous avons mis en place ce qu'on appelle le management par la confiance. Ça veut dire faire en sorte que les équipes et les collaborateurs soient dans leur activité professionnelle le plus autonome possible, le plus responsabilisé possible. Ça se traduit par exemple, hein, dans la relation avec nos sociétaires, par le fait que on n'est pas contraint par des objectifs de nature commerciale particulièrement. On n'est pas commissionné au contrat que l'on vend. On n'est pas en lecture à distance d'un script totalement standardisé. On fait confiance. On fait confiance. Il y a cette dimension d'autonomie, considérant que quand quelqu'un arrive au travail, il laisse pas son intelligence à la porte de l'usine ou à la porte de sa mutuelle d'assurance. Ça, c'est très important. Et Moi, je pense, je le dis très simplement, que dans ce domaine, nous avons incontestablement marqué des points. Et ça se traduit par quoi, au final ? Ben, par le fait que notre relation, je veux dire notre relation client, notre relation sociétaire, elle est particulièrement fluide, elle est reconnue, notamment par un certain nombre de prix, prix de la relation client, etc. Mais l'origine de ça, c'est ce qu'on a appelé à un certain moment la symétrie des attentions. Ça veut dire que l'attention que l'on porte, que l'on demande aux collaborateurs de porter aux sociétaires, il faut évidemment qu'en miroir, il ait cette même attention et cette même reconnaissance de la part du management de l'entreprise et particulièrement de son manager de proximité.
Est-ce que c'est une constante ou en tout cas une attention que vous relevez dans les organisations relevant de l'ESS que vous pouvez être amené à accompagner ?
Alors, dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, oui, il y a une réflexion en cours. Mais ce n'est pas parce que vous êtes une entreprise de l'économie sociale et solidaire que forcément vous avez intégré toutes les notions que vient d'évoquer Dominique. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont gouvernées à l'ancienne, en mode très hiérarchique, comme on dit, commande et contrôle, et que le management par la confiance, c'est pas si évident que ça, parce que ça suppose, comme vous venez de le dire, une certaine conception de l'être humain. Est-ce que l'être humain arrive au travail avec son intelligence, avec sa capacité à agir, ou est-ce que l'être humain doit être, contrôlé et dirigé pour pouvoir bien travailler ? C'est deux conceptions complètement différentes. Donc vous voyez que tout ça, ça vient quand même questionner les choses, notre rapport aux autres, notre rapport au travail, de manière assez profonde. Et donc je pense que les entreprises de l'économie sociale et solidaire ont également des efforts à faire, mais elles ont un vrai positionnement, je pense, à avoir, puisque elles sont quand même là pour réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire que faire société, qu'est-ce que c'est que le bien commun, les biens communs. Et ben, le travail, c'est un bien commun, et je pense qu'elle ça mériterait d'être un peu plus creusé et réfléchi, ce sujet.
Alors, creusé, réfléchi et dit peut-être ou pas, est-ce qu'on communique suffisamment justement sur ce qui se fait au sein de ces structures relevant de l'ESS, l'un ou l'autre?
Moi, je pense, avec le regard que je peux avoir des années passées dans le monde de l'ESS, que l'ESS souffre d'une discrétion excessive. Je pense que c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui. Le monde coopératif le constate, s'exprime de plus en plus. La mutualité aussi, mais quand même. Or, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire, notamment sur cette dimension qui fait l'ESS, c'est la logique du long terme. On n'a pas l'obsession dans les mutuelles d'assurance, dans les coopératives, de la rétribution, de la rémunération très court terme des actionnaires, quels qu'ils soient. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut regarder sur le temps long. Ça ne veut pas dire d'être pas réactif quand il le faut ou proactif, mais on n'a pas cette obsession du court terme, des résultats trimestriels, de la pression de l'actionnaire, etc. C'est un atout majeur. C'est un atout majeur qui se traduit par le corpus de valeurs que nous mettons en œuvre. Et je rebondis sur les propos de Flora tout à l'heure. Finalement, à quoi ça sert d'être entreprise à mission quand on est de l'économie sociale et solidaire, comme l'est la MAIF ? Je trouve que on ajoute un degré d'exigence supplémentaire. Pourquoi ? Parce que nous prenons des engagements. Ces engagements, ils sont connus, ils sont publics. Ils sont évaluables, ils sont mesurables, ils sont opposables. Ça s'est traduit très concrètement pour la MAIF par la mise en place d'un comité de mission qui est un organe indépendant de la gouvernance de l'entreprise, qui suit, qui challenge, qui conseille, les objectifs de l'entreprise et leurs avancées. Je crois qu'on ajoute Ouais, un degré supplémentaire dans la proximité que l'on doit avoir avec l'impact positif finalement de l'entreprise.
Et c'est aussi un élément de communication supplémentaire.
C'est un élément de communication supplémentaire, mais qui doit s'appuyer sur les preuves, quoi. On ne communique que sur la preuve, sinon c'est... J'allais dire c'est du flan, mais je deviendrai grossier.
Donc là, on rejoint la sincérité et l'engagement. Ou pas, Florent.
Oui, disons, pourquoi communiquer ? Enfin, la question, elle est intéressante. C'est d'abord, faisons, voilà. Je suis quand même partisane de faire d'abord et communiquer ensuite, plutôt que de communiquer d'abord et puis faire ensuite. Et puis ensuite, pourquoi communiquer ? Bah, je trouve que c'est intéressant de se poser la question, au fond, si ce n'est pour se faire valoir et montrer comme on est beau. Mais pourquoi communiquer ? Pour attirer j'imagine qu'il pourrait y avoir un enjeu qui est d'attirer des nouveaux talents, d'attirer les jeunes, d'attirer... voilà, il y a quand même un problème de recrutement en ce moment dans les entreprises. Moi, je connais énormément d'entreprises qui ont du mal à recruter parce que, je reviens à cette question de sens dont on parlait tout à l'heure. Et donc, communiquer, ça pourrait servir à ça. Ça pourrait servir en effet à dire ben, nous, on est une entreprise qui peut vous offrir ce sens que vous recherchez.
Et du côté des adhérents, de savoir exactement là où ils sont. Où ils mettent les pieds, je veux dire, en cotisant, en adhérant. Rappeler les valeurs, c'est quand même essentiel.
Oui, oui. Hein, on est d'accord. Du point de vue des sociétaires, oui.
Bien, on va revenir, si vous voulez bien, sur une question générale, et ce sera sans doute la dernière question, sur l'économie sociale et solidaire et son avenir. Dominique Mahé, dans un premier temps, est-ce que vous êtes confiant dans l'avenir pour l'ESS ?
Oui, moi... vous dire que je ne suis pas confiant vous surprendrait. Donc oui, je suis particulièrement confiant dans le devenir de l'économie sociale et solidaire parce que les temps président à cet optimisme sur ce qu'on a dit, hein, la recherche de sens, l'expression de valeurs, mais de valeurs démontrées par la preuve. Hein, c'est ça qui est important. On peut toujours tenir les plus beaux discours qui soient. Si l'activité et la preuve dans l'activité ne suit pas, ça devient très rapidement, premièrement inutile, deuxièmement dangereux. Le temps est venu, effectivement, pour faire en sorte que ces valeurs portées par l'ESS s'expriment véritablement dans le monde économique, parce que, on l'a dit, pour les jeunes générations, mais pas seulement, il y a ces exigences posées, hein, dans les actes d'achat, de la recherche de services, de concilier en même temps ces besoins-là avec des exigences qui s'appellent l'environnement, qui s'appellent le sociétal, qui s'appellent le modèle social d'une façon générale. Et l'économie sociale, pour me répéter, a ces atouts-là au cœur de son modèle.
Alors, est-ce que vous avez un exemple de réussite à citer au plan national ou international, donc de structures relevant de l'ESS, une réussite, à part la Maïf ?
À l'exception de notable de la Maïf. Mais c'est vrai que la Maïf est une belle réussite. J'en suis personnellement convaincu.
Nous l'entendons.
Et le contraire vous surprendrait. Non, enfin, j'ai pas d'exemple particulier, mais quand je regarde le mouvement coopératif, par exemple, il y a incontestablement un allant de ces coopératives de production, SCIC, etc., dans des activités multiples, qui fait que je crois le vent est porteur.
Bien. Donc ça, c'est un vrai signe d'encouragement et d'optimisme. Merci infiniment. Flora, vous voulez avoir le mot de la fin ? Petite conclusion de philosophe ?
Écoutez, je pense que la conclusion va rejoindre l'introduction. Je voudrais peut-être juste revenir sur ce rôle politique de l'entreprise. Je pense que le moment est vraiment venu. Et par rapport à ce que Milton Friedman disait dans les années 70, que le rôle de l'entreprise, c'était de produire des bénéfices pour des actionnaires. Aujourd'hui, je pense que est venu le temps du rôle politique de l'entreprise. Il n'y a pas de problème avec le fait de produire des bénéfices. Ça, toute entreprise produit des bénéfices. Le sujet, c'est comment ils sont créés, ces bénéfices. Ça, c'est la responsabilité sociale et environnementale. Et comment ils sont distribués. C'est ça, le sujet. Le problème, ce n'est pas les bénéfices. Il faut remettre ça au centre, je pense. Et donc, comment les bénéfices sont produits, comment les bénéfices sont distribués. Voilà, je pense que c'est ça le sujet.
Voilà, le programme est dit. On l'entend beaucoup, là, en ce moment, ce programme-là, dans les campagnes ou la campagne vers les élections présidentielles. Question difficile ?
Non, du tout.
Non ?
Enfin, du tout. On ne l'entend pas assez. On ne l'entend pas assez. Enfin, je n'ai entendu cette heure aucun candidat s'exprimer fortement sur le sens que les entreprises doivent donner à leur activité, à leur action. Enfin, je crois que malheureusement, c'est un sujet qui n'est pas suffisamment pris en compte.
Voilà, mais écoutez, c'est dit. Flora, d'accord non, sur ce point ?
D'accord, et c'est peut-être pour ça qu'il faut que les entreprises communiquent sur leur rôle politique, puisque visiblement, ce n'est pas pris en charge par les politiques.
Eh bien voilà, c'est dit, c'est entendu. Je vous remercie infiniment tous les deux pour votre participation à ce podcast. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes de podcasts.